Bonjour Monsieur Viala.
Bonjour.
Arnaud Viala, je le rappelle, député de la troisième circonscription de l'Aveyron. C'est tout le sud du département, quasiment la moitié du département. Et Monsieur Viala, vous étiez cette semaine, mercredi, à Paris, à l'Assemblée nationale pour la séance de questions au gouvernement. On va y venir. Mais première question, sachant que vous êtes du côté de Vezin, en plein milieu de l'Aveyron, comment vous avez fait pour monter à l'Assemblée?
Ah ben, je suis allé à l'Assemblée nationale en voiture, ce qui ne m'arrive, pour ainsi dire, jamais. Je vais d'habitude par l'avion, mais il n'y a pas de ou peu de transport de ce type. Et puis, je voulais également pouvoir bon voyager tout seul et profiter de l'occasion pour ramener chez moi des archives et des documents qui étaient entreposés dans mon bureau depuis longtemps et que je ne pouvais pas ramener dans l'avion.
Ah bah voilà, vous faites un petit peu comme tout le monde en ce moment, avec un petit peu plus de temps, on fait tous du grand rangement.
Voilà.
J'imagine que ça a dû vous faire bizarre de rentrer dans une assemblée nationale quasiment vide, parce que vous êtes très peu nombreux hein, pour ces séances de questions au gouvernement.
Alors, ambiance très particulière, effectivement. Je n'avais jamais vu l'Assemblée nationale sous ce jour. Donc, très peu de personnel, un accès extrêmement filtré. Et puis, une séance aseptisée avec quelques agents de l'Assemblée nationale chargés de désinfecter à peu près tout ce qu'on est amené à toucher pour pouvoir fonctionner. Et comme vous le dites, une poignée de députés autour de quelques ministres et du président de l'Assemblée nationale.
Alors, si je dis pas de bêtises, vous avez eu l'occasion de poser à trois reprises des questions au ministre, en particulier celui de la Santé, à M. Véran, des questions un petit peu groupées, hein, parce que vous avez aussi pris la parole pour des collègues députés. Hein. C'était des questions, alors évidemment, bon, bah, en plein centre de ce qui nous arrive, hein, autour des masques, autour donc du manque de masques, hein, évidemment, autour des tests de dépistage et de l'éventuel test sérologique là, qui permettra de dire si on a été atteint par le virus ou pas, sans le savoir d'autre part. Et puis vous avez aussi posé une question autour des EHPAD. Et j'ai cru comprendre que le ministre de la Santé n'a pas forcément répondu précisément à vos questions.
Alors en fait, effectivement, les questions que moi je posais, c'était les questions dont il me semble que les Français aujourd'hui se les posent beaucoup sur les équipements de protection, sur le dépistage qui est une condition de la sortie du confinement, et puis évidemment sur la situation de nos aînés dans les maisons de retraite. Ce que je déplore pour avoir posé les questions sans aucun désir polémique sur un ton qui ne l'était pas. Et avec une seule volonté, c'était celle d'obtenir des informations, de clarification par rapport à tout ça. Ce que je déplore, c'est que le ministre a opposé finalement des éléments de langage qui, par ailleurs, sont ceux qu'il diffuse sur les médias et n'a pas approfondi les réponses.
Et vous pensez que ces éléments de langage, c'est parce que il n'avait pas envie de vous répondre dans le fond ou parce qu'en fait il n'en savait rien, quoi?
Ben vous savez, tout bien réfléchi, parce que c'est le mérite du trajet en voiture fait qu'on a le temps de réfléchir. Je crois effectivement que ça traduit une difficulté aujourd'hui du gouvernement à répondre à ces attentes des Français et à baliser un peu les semaines et les mois qui arrivent et à nous dire comment les choses vont pouvoir se dérouler.
Et ça aurait tendance à vous inquiéter ou à la limite vous dites, bon, bah, c'est vrai que s'il ne sait pas, on peut comprendre puisque tout arrive d'un
Moi,
seul coup.
il y a une partie des éléments dont je comprends parfaitement qu'on ne puisse pas les définir à ce stade. Par exemple, donner une date sur la sortie du confinement aujourd'hui, je crois que tout ministre qu'il est, il n'en est pas plus capable que quiconque. En revanche, apporter des précisions, par exemple, sur le moment où les masques, les blouses, etc., seront réellement disponibles, puisqu'on nous a annoncé beaucoup de commandes, dont les chiffres d'ailleurs sont en train de devenir très difficiles à suivre, ça me paraît être du devoir du ministre que de délivrer ces informations aux parlementaires et surtout à travers les parlementaires aux citoyens.
J'ai vu aussi, parce que vous l'avez dit, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir en voiture ou ailleurs, hein, que vous vous interrogiez un petit peu sur le fonctionnement actuel bah, de l'Assemblée nationale. Donc c'est bien, la démocratie, voilà, il est question des députés au gouvernement, ça fonctionne, mais enfin bon, en petit comité, de façon très 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 partielle, hein, parce qu'il n'y a pas que les questions au gouvernement comme travail pour les députés, évidemment, et que vous envisagiez une idée autour d'une organisation dans ces situations exceptionnelles pour l'Assemblée.
Alors je fais plus que l'envisager, j'ai écrit une proposition de loi, là il y a une dizaine de jours, qui a été déposée, parce que le constat auquel me conduit la situation, c'est que on ne peut rien contester du fait qu'il est difficile de se réunir à l'Assemblée nationale. D'abord parce que l'Assemblée nationale a été un lieu de contamination. Ensuite parce que nous sommes 577 députés et près de 3 000 collaborateurs dans ce même lieu et qu'on comprend bien qu'il y a une promiscuité inévitable. Et enfin parce qu'on ne peut pas demander aux Français de se confiner et puis nous réunir. Mais en revanche, la démocratie exige que les élus, que les citoyens mandatent pour les représenter, puissent continuer de le faire, fût-ce d'une manière un peu différente, quoi qu'il arrive. Et là, cette situation inédite souligne le manque cruel de moyens de le faire différemment. Un député n'a aucun moyen aujourd'hui de fonctionner à distance, n'a aucun moyen de voter à distance, n'a aucun moyen de participer à une réunion à distance, si ce n'est les moyens tout à fait ordinaires qui présentent l'inconvénient majeur de ne pas être sécurisé, de ne pas être fiabilisé et donc de ne pas être utilisable. Et je pense que cet épisode doit vraiment nous conduire à une réflexion sur ce plan.
D'accord, donc vous pensez à des systèmes sécurisés, un de visioconférence et deux de vote électronique pour le coup.
Bien sûr, dont l'usage ne devrait être limité qu'à des situations tout à fait particulières, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de faire ça pour qu'ensuite les députés restent chez eux. Ça pourrait être la crainte de nos concitoyens. Moi, c'est pas du tout ce que je revendique, parce que le débat, il se nourrit aussi de l'interaction directe. Mais en revanche, en pareille situation, c'est invraisemblable. Moi, je vous dis ce qui m'a conduit à ça, à cette réflexion, c'est que lorsque les mesures d'urgence ont été présentées, débattues, puis votées, moi, j'ai fait partie des députés qui étaient candidats pour aller représenter le groupe, puisque déjà à ce moment-là, il y avait des restrictions. Je n'ai pas pu être parmi les représentants parce que nous sommes relativement nombreux. Mais j'ai trouvé absolument frustrant et presque insupportable de ne pas représenter mes concitoyens dans un moment aussi important, de la vie de notre pays. Et parce que moi, je mets un point d'honneur à être présent de manière très assidue à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et je trouvais ça absolument anormal. Et donc, je ne voudrais pas que ça se reproduise.
Un petit mot, alors on n'y est pas encore dans l'après, hein, on est en pleine épidémie, bien sûr. Mais d'après vous, je parle même pas des confinements, hein, mais la France d'après l'épidémie, quelle que soit la date, ça sera, on reviendra à la France d'avant?
Alors, je ne le pense pas, mais je ne le sais pas, et je vous fais une réponse un peu de Gascon ou de Normand, mais en réalité, je suis partagé entre une forme d'objectivité qui me conduit à croire qu'on ne pourra pas revivre comme avant, quand on imagine les conséquences déjà sanitaires, médicales, humaines évidemment, mais économiques qui se profilent et dont on est en train d'entrevoir l'ampleur. On comprend bien qu'il va y avoir après beaucoup de changements par rapport à ce que nous connaissions précédemment. Ça, c'est ce que je crois quand je regarde les choses objectivement. Ce que je crains quand je repasse en revue des événements plus ou moins récents dans ma tête, c'est que collectivement, individuellement, nous ayons trop vite tendance à trop oublier cet épisode, comme on a pu en oublier d'autres. Hein. Moi, je cite ces jours-ci régulièrement celui des attentats de novembre 2015, qui ont été aussi, toutes proportions gardées, toutes choses égales par ailleurs, un séisme pour notre pays, qui ont modifié les habitudes de vie pendant un temps qui finalement a été très court. Et ensuite, il y a une forme de routine qui a repris le dessus rapidement et qui nous a amenés à oublier. Et moi, je ne crois pas qu'il faille que nous commettions cette erreur. Il faut que nous prenions le temps de tirer des leçons de cet épisode sur à peu près tous les plans pour probablement vivre différemment dans le futur.
Merci beaucoup Arnaud Viala d'avoir été avec nous sur
Merci.
CFM. Au plaisir, bonne continuation. Évidemment, à un rythme beaucoup plus réduit que d'habitude, connaissant un petit peu votre emploi du temps et puis la passion pour ce mandat de député. Merci Arnaud Viala.
Merci.
Au
Bonne
revoir.
journée à vous.